Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Et bon, ce soir on va commencer réellement à voir que si on fait alliance, l'alliance signifie « je m'engage ». Hébron est le lieu d'alliance et le lieu d'engagement. C'est le lieu où je m'engage réellement à donner ma vie pour le Seigneur. Et ça parle d'un engagement plus profond, pas un engagement superficiel. Tant que ça m'arrange et je me sens bien, ok. Dès qu'il y a un souci, pas ok. C'est pas l'engagement selon l'alliance. Et plus on s'engage profondément avec Dieu, plus nos relations vont être testées et nos motivations de cœur vont être révélés. Car un engagement plus profond va tester nos relations et révéler nos motivations. C'est ce qu'on va voir ce soir. 1 Chronique 12, verset 17, nous dit ceci. Certains hommes de la tribu de Benjamin et de Juda viennent voir David dans son refuge. David va à leur rencontre et leur dit, « Si vous venez me voir dans un esprit de paix pour m'aider, vous êtes les bienvenus. Mais si c'est pour me tromper et aider mes ennemis, alors que je n'ai fait rien de mal, que le Dieu de nos ancêtres voit et juge l'affaire, alors l'Esprit de Dieu saisit Amasai, le chef des gardes, et dit, « Nous sommes à toi, nous sommes avec toi, David, fils de Jessé. Que la paix, oui la paix, soit avec toi et avec ceux qui t'aident. En effet, ton Dieu t'a aidé. » David ici est à Hébron et des chefs d'autres tribus commencent à venir. Les gars ont discerné que Dieu était avec David. Et quand ils arrivent, David ne dit pas « Ah les gars, vous avez enfin compris que j'étais roi, il y a du boulot, écoute, c'est cool que vous venez là, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, il y a besoin de beaucoup d'ouvriers, venez, venez, écoute, toi le groupe de louanges, toi, on va te mettre à l'accueil, toi, écoute, il faut faire des choses, c'est bien, il y a de la place. » David ne dit pas ça. David teste leur motivation. Ils testent les réelles motivations qu'ils ont. Là, ils partagent leur intention et David veut checker leur motivation. Parfois, on a de bonnes intentions, mais des bonnes intentions qui peuvent cacher des mauvaises motivations. Je peux dire avoir l'intention d'offrir mon iPhone à Harold, mais quelles sont les motivations qui se cachent derrière mon intention de lui offrir ? Quelles sont les intentions qui se cachent derrière ton désir de t'engager plus pour Jésus? Ça, c'est Hébron. L'engagement, de manière plus profonde et concrète, va révéler nos réelles motivations. Et là, David les check. David dit, attendez. Pourquoi vous venez là? Vous êtes avec moi, vous êtes pour moi, vous êtes venu pour la paix, vous êtes venu pour la guerre, vous êtes venu pour me perdre, vous êtes venu pour construire. Il n'y a plus le temps de jouer Tikas, Supia, Doulam, pour là servir les gars. Maintenant, si vous venez, vous servez Dieu à mes côtés, vous me servez. Et là, Massa est rempli du Saint-Esprit, il dit, wow, on est pour toi, David, on est avec toi. David dit, c'est bon, c'est ok maintenant. Ils avaient vu, ils avaient discerné que Dieu était sur lui pour la cause de son règne et de son royaume. Et là, David dit, ok, super, on va le faire. Et c'est important de comprendre ça, que dans le leadership, dans une église ou dans n'importe quelle organisation, il est important que le leader puisse tester les motivations de ses collaborateurs. C'est très important. Dans un parti politique aussi. Pourquoi ? Parce que ça révèle vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et Jésus était un expert pour tester les motivations. Dans Jean 6, verset 51, regardez ce que Jésus dit. Il dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputèrent entre eux, disant, « Comment il peut nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 66. « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. » Jésus n'était pas attiré par le nombre ou la foule. Jésus n'était pas « Ah, ben écoute, je ne vais pas les frustrer parce que là, il y a une grande foule et tout le monde me suit. Donc je vais les ménager comme un homme politique qui a besoin de vote. » Jésus ne les ménage pas. Il teste tout de suite les motivations. Il veut voir ceux qui le suivent, où ils en sont. Et à l'époque, dans l'ancienne alliance, notamment pour les juifs qui avaient la Torah, ils ne devaient même pas manger le sang. Et là, Jésus est en train de dire « Mangez mon sang !» Et les gars en train de dire « Mais attends, il nous prend pour des cannibales, quoi. Il veut faire de nous des cannibales. » Et Jésus, non, Jésus ne prend pas la peine même d'expliquer. Il ne prend même pas la peine de le faire comprendre. Il dit et il regarde les cœurs se manifester. Et la Bible dit plusieurs le quittèrent. Et ensuite, il se retourne à ses disciples et dit « Et vous, vous voulez me quitter aussi ?» Et les disciples disent « Non, tu as les paroles de la vie éternelle. » Il ne comprenait pas tout, mais il le faisait confiance. Quand avoir la foi en Jésus, eh ben, je vous garantis qu'avoir la foi en Jésus fera en sorte qu'on ne comprendra pas tout quand même. La foi en elle-même, une mesure d'incompréhension. Sinon, ça s'appellerait la raison. On veut tout comprendre. Mais la foi en elle-même, une mesure d'incompréhension. Et Jésus voulait voir s'ils étaient capables de le suivre sans comprendre réellement tout ce qu'il disait. Et des fois, il n'expliquait pas. À la foule, il parlait en parabole. Imaginez aujourd'hui qu'on vous enseigne en parabole. On vient, vous venez le dimanche et je vous raconte une histoire. Un jour, le petit poussé est parti, frère et sœur. Je vous raconte une histoire, c'est pas clair. Vous ressortez de là en disant, des pasteurs, là, on a un problème, ça. On n'a rien compris de ce que lui a dit, il ne sait rien de venir. Imaginez Jésus à l'époque. Et quand Jésus faisait ça, il faisait exprès. Parce qu'il voulait voir les cœurs. Il voulait tester les motivations de ceux qui l'entourent. Parce que les vraies relations, selon l'Alliance, résistent aux tests spirituels. Les relations charnelles ne résistent pas aux tests spirituels. Elles ne résistent pas. Mais selon Hébron aussi. Et Jésus donc voulait voir. Tout le monde avait l'intention de suivre Jésus, mais Jésus voulait voir quelles étaient les motivations qui se cachaient derrière ses intentions, derrière ses engagements. À un moment donné, il dit à ses disciples, je vais mourir. Je vais à la croix et je vais mourir. Mais je me ressusciterai, mais ils n'ont pas compris sur le coup. Et là, tous les disciples disent, ouf, là, c'est molle, là. Ils ne comprennent pas. Et Pierre qui fait, ah, Seigneur, moi, tu vas mourir, mais moi, je serai toujours là pour toi. Jésus le regarde et dit, mais vous allez tous m'abandonner. Et Pierre fait, ah, moi, Seigneur, tu ne me connais pas. Moi, je me connais. Moi, je me suis engagé pour toi. Moi, j'ai un engagement fort pour toi, Jésus. Et Jésus lui regarde et lui dit, Pierre, cette nuit même, tu vas me renier trois fois. Luc 22, verset 31, le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc Pierre ne savait pas lui-même quelles étaient les motivations qui le poussaient à s'engager pour Jésus pleinement. Et j'aimerais te dire ce soir que toi et moi, lorsque nous engageons plus profondément pour Jésus, parfois, une partie de nos motivations qui nous poussent à nous engager est cachée à nos yeux. On ne sait pas nous-mêmes réellement quelles sont toutes les motivations qui nous poussent à nous engager. Sinon, beaucoup de couples ne divorceraient pas. Mais des fois, nos motivations sont cachées. Et le test que Jésus fait, c'est pour révéler nos motivations. Non pas parce qu'il ne connaît pas nos motivations. Parce que nous, on ne connaît pas. Pierre dit, non, 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 Seigneur. Moi, je t'abandonnerai pas. Jésus lui dit, ouais, c'est ça. Ouais. Tu es un bon marmaille. C'est moi que t'as créé. Tu ne te connais pas toi-même. Et c'est très important. À Hébron, c'est le lieu où lorsqu'on choisit de s'engager plus, où nos motivations vont être révélées à nos yeux. Et là, on aura le choix, face aux incompréhensions, de se dire, je vais rester stable sur les principes de l'Alliance. Ou écoute, n'importe quoi, ça m'énerve, ça me prend la tête. Donc l'engagement à Hébron, c'est que tu as compris, tu sais que là le règne de Dieu est pas loin. Tu es passé par Bethléem, tu sais être fidèle dans les besoins. Tu es passé par Adoulam, tu as vu que ce gars-là, c'est réellement un homme de Dieu, ou tu as vu que c'est ton époux, c'est elle que Dieu a mis sur ton chemin, c'est lui que Dieu a mis sur ton chemin, c'est ton époux, tu sais que ça vient de Dieu, tu sais. Et là, tu arrives à Hébron. Tu t'engages et là, bam, les relations sont testées. Et là, nos motivations aussi sont manifestes. Et là, nous devons choisir ou pas de dire je vais construire ma relation sur les bases de l'alliance en Christ. Si tu préfères Hébron, un deuxième point, à côté de tester nos motivations, c'est un lieu d'engagement où notre loyauté va être éprouvée et testée. À Hébron, ce que Dieu cherche à mettre en évidence dans les relations, c'est la loyauté envers lui et envers sa vérité, son alliance, sa parole. Par exemple simple, je m'engage pour toi Jésus. Oui, mais mon patron me prend la tête ou mon voisin m'a fait du mal. Et l'alliance te dit pardonne. Ah ben non alors. Tu viens manquer de loyauté. Et Hébron, c'est le lieu d'engagement où la loyauté est éprouvée et testée. À Hébron, les gens sont venus servir David par rapport au leader qu'il était. Malgré les divergences d'opinion, malgré qu'ils étaient d'une différente tribu, malgré les incompréhensions, ils savaient qu'ils devaient être ensemble, selon la grâce de Dieu, pour régner en Sion, pour amener le réveil en Israël. Et si l'Église, avec un grand E, si on arrivera à comprendre ça et à pratiquer surtout, on prend la réunion pour Jésus. À Hébron, donc la loyauté est éprouvée. Et comprenons bien ceci. La loyauté n'est pas éprouvée quand tout le monde est d'accord. La loyauté est surtout éprouvée lorsqu'il y a des accords. Lorsqu'on n'est pas d'accord. Là, la loyauté est éprouvée. Et éprouvée. Je prends l'exemple de Daniel, un exemple inspirant à la parole de Dieu. Cet homme qui est emmené captif, arraché d'Israël, prisonnier à Babylone, prisonnier de Nebuchadnezzar, l'empereur de Babylone. Nebuchadnezzar est un empereur despote, un but de lui-même. Il s'est fait une statue, le gars, il fait un rêve et il dit « Je vous dis même pas le rêve. Je vous dis même pas le rêve. Et si vous trouvez pas le rêve, je vous tue tous. » Je veux dire, le gars a un problème, quoi. Je pense, si ton patron te dit « J'ai fait un rêve et je te dis pas le rêve. » Non seulement tu trouves le rêve et tu m'expliques le rêve et si tu trouves pas, je te renvoie. Le gars a un problème. On va dire, on va porter plainte contre lui parce que c'est pas bon ce qu'il fait. Et Daniel, il sert un roi comme ça. Et pourtant, Daniel, malgré ses désaccords avec ce roi-là, malgré la divergence d'opinion, Daniel a été trouvé loyal parce que c'était un homme rempli de l'amour de Dieu et des principes de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il a commencé à arriver à Babylone, que Daniel a résolu dans son cœur de ne pas manger les mets du roi. Si tu préfères, il s'est engagé. Il a résolu dans son cœur. Il s'est engagé à faire alliance avec Dieu et à refléter Dieu et à représenter Dieu. Il s'est engagé. Il a résolu dans son cœur de ne pas se corrompre. Il a résolu dans son cœur de marcher dans l'intégrité. Il a résolu dans son cœur de marcher dans l'honnêteté. Il a résolu dans son cœur. Daniel, pendant que le roi voulait les corrompre avec ses mets, la Bible dit que Daniel et ses amis Shadrach, Meshach et Abednego ont dit non. Et la Bible dit qu'ensuite Dieu a élevé ces hommes-là à un top niveau. Plus de faveur, plus de sagesse. La loyauté qu'ils ont manifesté envers l'ancienne alliance, Dieu a apprécié et les a élevés. Écoute bien ceci, la loyauté peut coûter cher, mais elle rapporte gros. Elle peut coûter cher, mais elle rapporte gros. En Christ, quelqu'un de loyal dans son caractère ira beaucoup plus loin que quelqu'un de doué. L'impact d'un homme loyal surpassera l'impact d'un homme doué en Christ. Parce que Dieu aime la loyauté. Il chérit la loyauté envers ses principes, envers sa vérité. La loyauté, c'est le chemin vers la promotion dans le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Daniel 11, verset 32, « Par ses intrigues, il entraînera dans l'impureté ceux qui auront trahi l'Alliance. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. » Cela, ce verset parle en réalité, il y en a qui vont trahir l'Alliance, Judas. Mais il y en a qui vont garder l'Alliance. Et ceux qui marchent dans l'Alliance, qui la pratiquent, sont destinés aux exploits. Sont destinés à faire des exploits pour le Seigneur. Et à Hébron, un autre point qu'on va voir ce soir, Hébron est le lieu où les exploits commencent à se multiplier, où les grands guerriers de David commencent à se mettre en évidence, où il y a des exploits extraordinaires. Un gars tue 800 personnes avec une lance, tout seul. Bouguer fort. Bouguer dangereux. Et sans compter les autres 30 guerriers. David a 30 guerriers dangereux par leurs exploits. 30 guerriers qui a été élevé à cause de leur loyauté et à cause de leur accomplissement. Pourquoi ? Parce que la loyauté, selon l'Alliance, te fait faire de grands exploits. Et David ne voulait pas élever à un rang dans son royaume d'autorité des hommes qui étaient forts en théologie. Il élevait les hommes et les femmes qui étaient surtout forts dans les exploits. Pourquoi ? Parce que avoir de l'autorité n'est pas une affaire de théologie. C'est une affaire d'être loyal à l'Alliance, loyal à la vérité. Et ceux qui sont loyaux à l'Alliance font de grands exploits. C'est inévitable. Et donc David mettait des chefs dans son armée, on le voit dans 1 Chronique 11, mais on n'ira pas, il y a trop de choses à lire. Il mettait des chefs de l'armée dans son armée quand les gars étaient loyaux et quand les gars avaient accompli de grands exploits. Il n'a pas dit, toi, tu as un bac plus 9. C'est génial, viens, je vais te mettre à côté de moi. Il a dit, toi, tu es fidèle à Dieu, ta fidélité se manifeste par des fruits. Yes, ta connexion avec Dieu me plaît, viens à mes côtés. Ensemble, on va s'unir, on va faire alliance et on va être dangereux pour l'ennemi. Ça, c'est Hébron. Et comprenez les exploits dans la nouvelle alliance que nous sommes. Ce n'est pas tuer 800 hommes avec une lance. Les exploits parlent des exploits de caractère en Jésus-Christ. Des exploits de foi. Des exploits où tu manifestes constamment ta loyauté en l'alliance parce que tu triomphes du mal qu'on te fait par le bien. Ça, c'est un exploit. Tu es capable de bénir tes ennemis. Ça, c'est un exploit. Mais pour faire ça, il faut être attaché à l'alliance et au Dieu de l'alliance. Ça parle des exploits de caractère, des exploits, des œuvres de la foi. Et là, Dieu dit, ok, toi dans mon royaume, promotion. Toi dans mon royaume, promotion. Toi dans mon royaume, promotion. La promotion, c'est pas parce que Dieu préfère l'un par rapport à l'autre. C'est pas du tout ça. La promotion, c'est parce que l'un a manifesté plus sa loyauté envers l'alliance qu'un autre. Et Dieu voit que si tu as été loyal, c'est parce que tu es responsable. Et si tu es responsable, lorsque tu multiplies 5 talents, Dieu t'en donnera 50. Le rang d'autorité dans le royaume de Dieu, par exemple, n'est pas une question de performance, c'est une question de responsabilité. Donc Dieu aime tout le monde pareil. Mais il ne va pas donner la même autorité à quelqu'un qui manque de loyauté, qui ne sait pas exercer sa responsabilité par sa partie de l'alliance, dans sa partie de l'alliance, tandis qu'il va donner à un autre une promotion parce qu'il le voit exercer sa responsabilité et manifester sa loyauté dans sa part à lui qu'il a d'exercer l'alliance. C'est comme si tu as 2 enfants. Imagine, tu as un enfant de 18 ans et un autre de 14 ans. Le marmaille qui a 18 ans, tu aimes les deux. Mais celui de 18 ans est foufou. Tu sais que quand tu es pas là, le gars invite ses camarades à ta case. Tu as fini de dire, fais pas ça. Il fume en cachette, il bois l'alcool, tu gagnes plus avec lui. Tu laisses tes clés, il prend les clés, tu as fini de dire, maman a 18 ans. Et tu as un autre qui a 13 ans, tu as déjà testé, il a 13 ans, il ne comprend pas tout. Mais à 13 ans, tu vois que tu peux le faire confiance, le gars est responsable, il est capable de réellement t'écouter. À qui tu vas donner le plus de responsabilité? 18 ans ou 13 ans? 13 ans. Donc, ça ne dépend pas non plus de l'âge que tu as au niveau de ta vie chrétienne, mais des exploits qui émanent de ta loyauté par rapport à son alliance. Et là, Dieu dit, yes, j'ai vu le prix payé, j'ai vu les responsables, j'ai vu, ah, faveur, bam, promotion, bam. Et pourtant, tu aimes tes deux enfants pareil. Celui qui a 18 ans comme celui qui a 13 ans. Mais tu as une clé de voiture, tu as envie de donner à conduire celui qui a 13 ans, pas celui qui a 18 ans. Parce que tu te dis, oulala, tu sais pas ce que celui qui a 18 ans, qu'est-ce qu'il va faire avec ta voiture. Mais celui qui a 13 ans, tu vois qu'il est plus sage, plus loyal à tes recommandations. Mais tu aimes les deux. Donc c'est pas que Dieu fait des préférences forcément par rapport, il aime plus que l'autre, mais ses préférences dans les rangs d'autorité sont en lien avec la loyauté. Amen. Dernier point ce soir. Donc Hébron, c'est le lieu, on a vu, où les motivations sont testées, parce qu'on s'engage plus profondément. C'est le lieu également où les exploits sont multipliés par la grâce de Dieu. C'est le lieu où la loyauté est éprouvée. Mais c'est le lieu où on doit marcher dans les principes de l'alliance. Mais j'aimerais, comme j'ai déjà dit, mais j'aimerais insister sur cette dernière partie. Marcher dans les principes de l'alliance. Et dans la nouvelle alliance, quelle est la valeur fondamentale de base qui soutient toute la nouvelle alliance? Est-ce que vous le savez? C'est l'amour. C'est l'amour. Donc, marcher dans la nouvelle alliance, c'est apprendre à bâtir nos relations en nous aimant selon cet amour-là qui provient de cette nouvelle alliance-là. Et Jésus nous en parle dans Jean 13, verset 34. Il dit ceci: je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Jésus est clair. Voilà la base de la nouvelle alliance. Il dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Là, il y a une base très importante. Il est en train de dire, marche dans mes principes. Il est intéressant de voir que c'est un commandement nouveau. Il y a déjà, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme soi-même. Et là, il donne un troisième qui est équivalent aux deux autres. C'est, aimez-vous les uns les autres. Et la nouveauté, elle est dans le comme je vous ai aimé. Il est venu, Dieu sur terre en Jésus-Christ, est venu manifester le standard de la nouvelle alliance. Il est venu nous montrer comment aimer. Il est venu nous montrer c'est quoi le comme je vous ai aimé. Il a manifesté cela à ses disciples, il a lavé les pieds, il a aimé les païens, il a aimé ceux qui le persécutaient, il a pardonné ceux qui l'ont mis sur la croix, il a aimé. Et il dit ça, c'est le standard de la nouvelle alliance que je fais pour vous. C'est par amour que j'offre ma vie. Il dit, maintenant, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. J'imagine à ce moment-là la tête des disciples. Eux qui n'arrêtaient pas de se quereller pour savoir qui était le plus grand entre eux. Eux qui avaient un peu de conflits et de disputes. Ils se disent, là c'est dur les gars. Eux qui étaient toujours en train de chercher qui allait être le plus grand. Là Jésus dit à une équipe qui a un peu de friction entre eux, maintenant vous allez apprendre à vous aimer comme moi. Je pense que ça a dû être un électrochoc pour les gars. Je pense que là, ils ont dû dire, Seigneur, moi personnellement, j'aurais préféré que Jésus dise, aimez-vous les uns les autres du mieux que vous pouvez. Ça je trouve que serait été cool. Je me dis, aimez-vous les uns les autres du mieux que vous pouvez, ça me convient. Mais aimez-vous les uns les autres comme Jésus aime les gars, les amis, les frères et sœurs. Je veux dire, là, c'est dangereux. Là, c'est impressionnant. Attends, Jésus est en train de dire, les standards d'amour de Jésus sont extrêmement élevés. Aimer comme lui, c'est ouh. Bénissez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Oui, si on vole ton manteau, on vole ta chemise, donne ton manteau. On te frappe sur une joue, donne l'autre joue. Ah ! Même l'Ancien Testament, les standards sont plus bas. C'est œil pour œil et dent pour dent. Tu m'as fait mal, maintenant viens goûter un peu aussi. J'aime Dieu de tout mon cœur, toute mon âme, de ma pensée, mon prochain comme moi-même, et mon ennemi, œil pour œil, dent pour dent, deux tapins dans sa tête, s'il lui vient. Et là, Jésus, lui, il amène l'amour à un autre niveau. Le comme, les disciples ont dû dire, c'est impossible ce qu'ils nous demandent. Les gars, c'est impossible. Pierre, il est né avant moi. Jean, il est né avant moi. C'est comme si Jésus leur disait, écoutez, je veux que vous puissiez faire du saut en longueur, mais la distance que je veux que vous sautiez, c'est d'ici à Maurice. C'est la même chose, la même image. Le comme je vous ai aimé, c'est impossible. Comprenez, Jésus dit, celui qui regarde une femme et qui la convoite dans sa pensée a commis un adultère. Ben, je ne connais pas un homme qui a jamais commis d'adultère. S'il y a un homme qui fait « Non, moi ça ne m'est jamais arrivé, on va prier pour le mensonge. » Je dis « Mais attends, tes pensées, t'es ? » Les standards de Jésus sont vraiment élevés. Et les disciples ont suivi l'enseignement de près, ils ont dû dire « Ouh, les gars, là c'est dur. » Mais la différence près, c'est que les disciples étaient habitués à ce que Jésus les challenge souvent face à des impossibilités. Donner du pain aux milliers de gens qui sont là. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Super, nourrissez-les. Hein ? Il y a la tempête, viens marcher sur l'eau. Hein ? Va pêcher un poisson, s'il te plaît. Il y a de l'argent dedans, il ramène. Ils étaient habitués à ce que Jésus les provoque avec les impossibilités. Quand Jésus nous dit d'aimer comme il aime, ce n'est pas pour nous décourager. En réalité, c'est pour que nous puissions comprendre que oui, c'est impossible pour nous, mais c'est possible pour lui. Et si on comprend que c'est possible pour lui, alors il est dans notre intérêt de comprendre que nous ne pourrons pas aimer comme lui du mieux que nous pouvons ou par nos propres efforts, même les meilleurs. Mais ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que nous pouvons aimer comme lui à condition que nous comprenons que c'est impossible pour nous, mais possible pour lui. Et à ce moment-là, on va vers lui afin que lui, en nous, et nous, avec lui, et lui, avec nous, nous permet d'aimer comme lui aime. Vous avez suivi ? Ça signifie que c'est impossible pour nous, mais avec lui, en nous, c'est possible. Voyez-vous ? Pour notre ami Luc. C'est possible avec Jésus. Et ça nous conduit, on ne devrait pas être découragé. On devrait aller vers lui pour ça, dire « Oui Seigneur, je comprends, merci. » C'est ce que Dieu veut. Et il nous dit un commandement nouveau. Il dit, voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez comme je vous ai aimé. Ça signifie, tu ne pourras pas aimer sans moi. Mais avec moi, tu pourras aimer. Mais c'est un commandement. Et j'aimerais te dire ce soir, tu ne peux peut-être pas commander tes émotions, mais tu peux commander tes actions. Tu ne peux peut-être pas commander tes émotions, mais tu peux commander tes actions. Je prends l'exemple d'un couple, par exemple, le mari aime plus trop la femme aime plus trop le mari. Tu ne peux pas dire « émotion d'amour !»« Ranime la flamme !» Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire « émotion, je t'ordonne dans le nom de Jésus !»« Sois joyeux !» Tu ne peux pas commander les émotions, mais tu peux commander une action. Ça, c'est très important. Il dit, j'ai un commandement, l'amour et action. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, n'aimez pas juste en parole, mais en action et en vérité. C'est très important. Nos émotions sont réelles, elles sont vraies, mais on ne doit pas être conduit par elles. Il ne faut pas les dénigrer, il faut les accepter. Elles sont importantes, mais parfois elles nous trompent. C'est comme si, je ne sais pas, tu dis, tu te lèves demain matin, lundi matin, et tu fais, ouf, là je sens vraiment pas du tout, là je ne le sens pas. Je ne sens pas que j'ai envie de travailler. Je ne sens pas, là je ne sens pas qu'il faut aller au travail. Écoute, je n'ai pas le feeling, il n'y a pas une émotion de joie qui me dit, va travailler. Et pourtant, tu prends ton callback, tu fais, allez, allons travailler. Souvent, même quand tu ne sens pas, tu ne laisses pas les émotions dicter, tu passes à l'action. Pourquoi, quand tu n'as pas envie de travailler, tu vas quand même travailler en passant à l'action? Pourquoi? Comme ça. Monaï. Parce que, attends, je suis payé pour ça. Et je vous l'ai déjà dit, je vous repose cette question. Serais-tu capable de faire par amour ce que tu fais pour de l'argent? C'est-à-dire, quand tu n'as pas le feeling de pouvoir aimer Lot, de te dire, attends, mon feeling est réel, mais je vais passer à l'action quand même. Je commande une action et je vais le faire. Et l'action va faire naître les émotions après, différemment. Imagine le sportif qui dit, le gars professionnel et qui dit, aujourd'hui je sens pas que j'ai envie de m'entraîner. Il n'y a pas de question que tu sens pas là. Si tu veux être bon, va t'entraîner. Mais nous, oh, je sens pas qu'il faut aller à l'église. Par exemple, et c'est là qu'on ne comprend pas le commandement de Jésus, dire commandement nouveau, ça signifie, hey, tu peux commander une action. Jésus n'a pas senti que lorsqu'il fallait à la croix. Il ne s'est pas réveillé le matin et dit, ouh, là je me sens bien là aujourd'hui, tu sais, je vais mourir sur la croix, ça va être dur, mais oh, je suis content. Je suis vraiment content pour les milliers de gens que j'aime. Je sens mes feelings, mon feeling est bien. Jésus n'a pas dit ça. Il était dans le jardin de Gethsémané et il dit en priant avec insistance, il dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Il ne voulait pas. Toutes les émotions en lui criaient, non, non. Et Jésus dit, non, Père, éloigne cette coupe de moi. Et puis il dit, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il passe à l'action. Par amour pour nous. Quand il nous demande de nous aimer, il parle d'agir. L'amour peut se ranimer. Dans Apocalypse 2, 5, Jésus parle à l'église d'Éphèse, il me semble, et il dit, tu as abandonné le feu de ton premier amour. Il n'a pas dit tu as perdu, il dit tu as abandonné. Ça signifie que tu peux aller le rechercher et le ranimer. Comment? Pas en comptant sur ton feeling. Ah, mes émotions ne me le disent pas là. Mais en passant à l'action. Comment aimer ses ennemis? Tu crois qu'il faut attendre un feeling pour aimer ses ennemis? Forget. Oublie. Il faut passer à l'action. C'est ça qui fait la différence. Et là, on prouve notre loyauté selon l'Alliance. Et là, on commence à accomplir des exploits. On commence à refléter Christ. Comment ranimer la flamme dans ton couple? Passe à l'action. Laisse pas les émotions dicter votre relation. Les émotions sont comme des montagnes russes. Oui, elles sont importantes. Je ne dis pas qu'il faut les renier. Il faut les laisser. Jésus avait des émotions. Dieu a créé les émotions. Jésus est arrivé à un moment donné par rapport à Lazare qui était mort et dans la tombe. Et la Bible dit que Jésus pleura. Jésus était souvent ému de compassion et ses émotions étaient aussi un indicateur de ce qu'il fallait faire et parfois de ce qu'il ne fallait pas faire. Mais jamais il a laissé ses émotions dicter. L'amour n'est pas juste une question d'émotion et de feeling. L'amour est action. Et ça, c'est Hébron. Avant Sion, où le peuple de Dieu fait alliance, basé sur la valeur summum, au summum de la nouvelle alliance, l'amour. Pas l'amour que nous on pense, feeling ou je t'aime moi non plus, mes intérêts, super. Comme il a aimé. C'est-à-dire un amour impossible avec nos propres efforts. Il n'a pas dit fais de ton mieux pour aimer l'autre. Il a dit aime comme j'ai aimé. Ça nous met tous égaux au même pied du mur. On ne pourra pas sauter de là, Maurice, en sans longueur, sans l'aide de Dieu. Mais avec son aide, on fait le tour de la terre. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc c'est possible par sa force d'aimer. Et ceux qui sont loyaux à l'alliance feront des exploits. Amen. Alors rien n'est perdu. Je n'ai pas reprié pour vous pour terminer, mais j'aimerais te dire si tu es dans ce lieu et que les relations de couple sont fragiles. L'amour pour ton papa, ta maman ou tes parents, c'est fragile. Tu penses que ce n'est pas possible de pouvoir re-aimer vraiment. J'aimerais te dire si c'est possible. N'abandonne pas si c'est possible. C'est peut-être dur. Ton feeling crie non. Mais si tu fais confiance à celui qui vit en toi, Jésus, il va te permettre d'aimer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole, frère et sœur ?